Le paddock RMC, Jean-Luc Roy, Nicolas Paolorsi.
Salut les amis, le paddock RMC file à Monza en Italie pour débriefer la 16e manche du championnat du monde, la dernière manche européenne de cette saison de Formule 1 dans le temple de la vitesse, un grand prix toujours spécial, avec des tribunes pleines, des tifosi qui vibrent pour la Scuderia Ferrari, et la Scuderia n'a pas su performer cette fois, en tout cas. Il n'y a pas eu de miracle, on va dire, à Monza. On reviendra sur les résultats des pilotes Ferrari, mais c'est Max Verstappen qui a signé la troisième victoire de sa saison à Monza. Dès que McLaren est un peu moins bien, Verstappen est toujours là pour aller récupérer les miettes. Les ingénieurs du paddock RMC sont toujours en forme. Après 16 manches, ça bouge pas. Jean-Luc Roy from Miami est avec nous. Salut mon Jean-Luc.
Hey, salut mon Nico, bonjour à tous.
T'es accompagné des deux ingénieurs rookies de la bande, Séraphin Bette et Tristan Van den Driche. Salut les gars.
Salut tout le monde.
Salut, salut.
Salut les gars.
Je vous rappelle les amis que le paddock est bien évidemment dispo sur toutes les plateformes de téléchargement. Abonnez-vous, notez-nous également les 5 petites étoiles, c'est super important. Et je vous rappelle que vous pouvez communiquer avec nous, interagir via la page Instagram RMC Formule 1. Il y a plein d'extraits du paddock, il y a plein aussi de contenu inédit quand on va sur des événements. Par exemple, Séraphin, il est allé à Amsterdam il y a quelques temps, Séraphin, et t'as fait l'expo de la F1 à Amsterdam, c'est ça?
C'est ça, un petit contenu sympa et ouais, c'est chouette.
Ouais, c'est vrai que c'est très cool, franchement, tu vois, l'expo itinérante un peu qui bouge de ville en ville. Donc allez vous abonner également hein, sur la page Insta RMC Formule 1. Les gars, on va lancer, vous savez quoi, on va lancer le débrief et après je vous demande les notes de ce Grand Prix. C'est parti pour ce paddock RMC. Grand Prix d'Italie à Monza. Jean-Luc, on a l'habitude de dire à nos auditeurs de nous noter sur 5 étoiles et on note nous aussi les Grands Prix. Est-ce qu'on a vibré ce week-end en Italie? Mon Jean-Luc, combien tu mets à ce Grand Prix?
Eh bien écoute, j'aurais aimé mettre plus, mais je remets un 4. Alors j'avais mis un bon gros 4 lors du dernier Grand Prix. Là, je mets un 4 normal. Voilà, c'est ce que ça mérite.
Ouais.
On va.
Ouais,
on
je va suis d'accord avec toi. Ouais. J'aurais mis un 4 aussi. Les gars?
Moi, je suis parti sur un 3. J'ai pas trouvé.
Oh, t'étais déçu, mon Tristan.
En fait, les qualifs, j'ai beaucoup aimé. C'était vraiment très intéressant. Et après, le Grand Prix, au bout du quatrième tour, quand il n'y avait plus trop de batailles, train DRS et même pas de stratégie un peu osée de la part d'un des pilotes, moi, ça me laisse un peu sur ma faim, ce Grand Prix.
Ça a faim?
Je vais vous décevoir, mais moi, je vais mettre 2,5 même. La moyenne.
2,5, la moyenne.
Ouais. Ouh là là, ils sont durs.
Ouais, on en parlait, hein, il s'est passé quand même des choses, mais j'ai passé un meilleur samedi, on va dire, que la course de dimanche qui était.
Ouais, c'est clair.
On en parlera.
Après, j'ai englobé. C'est vrai que on aurait peut-être dû englober les qualifs. C'est pour ça que moi aussi, je montais à 3,5, 4 un peu dans ma note parce que le samedi était vraiment cool, je trouvais. Je vous donne le classement, les gars. Avant toute chose, les grosses infos de cette course. Avec la victoire, on le disait, de Max Verstappen, sa 66e en Formule 1, la 3e de sa saison, il s'impose devant Lando Norris. Lando Norris, donc, qui a bien digéré son douloureux week-end à Zandvoort et qui termine devant son coéquipier Oscar Piastri. Piastri sur le podium qui prend 15 points. Derrière, ça a été compliqué pour les pilotes Ferrari. Charles Leclerc est 4e, Lewis Hamilton 6e. C'est George Russell sur sa Mercedes qui vient s'intercaler entre les pilotes Ferrari. Je vous rappelle qu'Hamilton avait une pénalité hein, de 5 places sur la grille de départ. Donc il fait pour le coup un beau week-end, Lewis Hamilton. Alex Albon, 7e, une nouvelle fois très solide. Gabriel Bortoletto avec sa Sauber qui va prendre 4 points à la 8e place. Kimi Antonelli, ça a été plus difficile pour le rookie à domicile. Il termine 9e et Isaac Hadjar a fait une nouvelle fois une course énorme hein, puisqu'il partait dernier, Isaac, après des soucis sur sa voiture, et il est allé chercher le point de la 10e place. Pierre Gasly 16e, Esteban Ocon est juste devant à la 15e place. Voilà pour les grosses infos du classement. Sinon, Fernando Alonso a encore une fois abandonné, 5e abandon de la saison pour Fernando Alonso. Classement des pilotes, 324 points pour Oscar Piastri. Lando Norris qui grignote un petit peu, il n'est plus qu'à 29 points, enfin plus qu'à, il y a quand même 29 points d'écart. Et Max Verstappen qui est désormais à moins de 100 points d'Oscar Piastri. 230 points pour Verstappen. Il y a un gouffre hein, entre les deux pilotes McLaren et Max Verstappen. Autre info, Isaac Hadjar est passé devant Nico Hülkenberg. Il est 9e au classement des pilotes et puis au classement des constructeurs. Je vous la fais courte hein, parce que McLaren a 350 points d'avance, voire plus sur Ferrari. Je ne fais même plus les calculs, tellement ils ont de la marche. C'est toujours la Scuderia qui est 2e. Mercedes est à 20 points de la Scuderia et Red Bull est à 41 points de la Scuderia Ferrari. Donc on va se bagarrer pour cette 2e place jusqu'à la fin de la saison. Voilà pour les grosses infos du week-end. Si vous n'avez pas regardé la course, vous savez tout ce qui s'est passé. Jean-Luc, je le disais un petit peu dans mon sommaire, oui. Verstappen, c'est un avaleur de miettes, c'est un aspirateur, on a le droit de citer des marques dans le paddock RMC, on va en citer, c'est un aspirateur Dyson. D'ailleurs, si Dyson veut nous sponsoriser, hein, on est très ouvert à la discussion, mais dès qu'il y a des miettes par terre, Verstappen, il est là et il gagne.
Oui, eh ben écoute, pourquoi cette note qui effectivement est colossalement élevée par rapport à celle de mes camarades ? Ben plusieurs raisons. D'abord, la première, tu viens de l'évoquer. Puis, alors, je crois que c'est pas la peine à chaque fois de dire quand on dit le Grand Prix, c'est le week-end. Pour moi, évidemment, les qualifs sont avec.
Oui, oui.
Ah, on peut pas les dissocier, c'est impossible. On l'a jamais fait, donc il n'y a pas de raison de le faire cette fois-ci. Donc, une qualif extraordinaire, il n'y a pas d'autre mot de Verstappen. Je suis désolé, je sais, vous allez me dire encore, il s'émerveille devant les performances de Verstappen. Mais je crois qu'il faut avoir cette capacité à s'émerveiller en temps réel sur ce qui se passe devant nous. Parce que troisième victoire de la saison avec quand même encore une fois une monoplace qui, je le rappelle, à chaque fois n'est pas au niveau. Alors je veux bien, elle a progressé naturellement. On n'est plus où on était en début de saison et a fortiori l'an dernier. On se rappelle de la catastrophe de l'an dernier. Mais il faut quand même un exploit absolument personnel, fabuleux, parce que normalement, ce n'est pas lui qui devrait être devant. Alors déjà, il règle la monoplace apparemment dans une direction. Effectivement, ils sont partis dans une autre direction qui a l'air de fonctionner sur un tour, mais aussi, et c'est la plus grande surprise, sur le Grand Prix. Parce que je ne pense pas qu'il fasse de la désinformation, encore une fois, j'en serais très déçu le jour où je le prendrai en flagrant délit. Je parle de mon opinion personnelle par rapport à ce qu'il dit. Je pense que Verstappen ne s'attendait pas du tout à dominer en course comme il l'a fait. D'ailleurs, il y a eu cette passe d'armes au début, quand même, il faut le rappeler. Donc c'est pour ça que je mets une bonne note aussi. Ce n'est pas très souvent qu'on voit là aussi des dépassements. Bon, il a rendu la position, il l'a reprise après. On a eu la même chose derrière avec Piastri et Leclerc. Donc je pense qu'on a eu, dans le paquet, il y a eu des dépassements, il y a eu des bagarres, il y a eu des événements. Et puis, on a eu aussi cette remontée d'Hadjar, hein, vous l'avez évoqué, qui est remarquable. Il part depuis la voie des stands, il va arracher un point. Non, moi, je vois plein de bonnes raisons. Bortoleto qui confirme, Albon qui confirme. Moi, je vois de bonnes raisons. Alors, bon, Ferrari, c'est moyenasse, on va en reparler. C'est le service minimum, il ne monte pas sur le podium. Hamilton fait le boulot, mais pas plus, pas moins, pas plus. Mais bon, pour moi, ça vaut un 4. Alors, c'est peut-être surcoté parce que j'adore Monza. On appelle ça le temple de la vitesse. Également, meilleur tour jamais réalisé quand même aux essais, les gars. Ouais. À près de 265 km/h de moyenne. Et Grand Prix le plus rapide de l'histoire de la Formule 1 à plus de 250 de moyenne. Bah, moi, je suis désolé. Je le dirai jusqu'à mon dernier souffle. J'adore la vitesse. Voilà.
Mais non, mais t'as raison, Jean-Luc. Et de toute manière, on le dit encore une fois, ces notes sont subjectives. Et donc, si t'as un coup de cœur pour un circuit, bien évidemment que ça rentre dans la note. Moi, je vous avoue que je mets directement une note un peu meilleure à chaque fois. C'est historique que je connais depuis mon enfance, plutôt que sur des circuits là sur lesquels on va rouler dans quelques semaines, dans quelques mois, que je connais pas forcément.
Et pardon de t'interrompre, Nico, j'ai pas parlé des tifosi, volonté évidemment. Ah, oui, j'aurais dû commencer par là. L'ambiance extraordinaire à Monza, voilà pour
rien que le jeudi à Monza, moi ça me fait prendre 0,5 ou 1 point, tu vois. Donc avec l'accueil des pilotes par les tifosi,
c'est beau. Hein.
Tristan, ouais, moi je trouve ça dingue. Tristan, parlons de ce week-end de Verstappen. Qui a peut-être raté son premier virage, mais sinon qui a été encore une fois monstrueux. Jean-Luc parlait de la voiture qui a avancé. C'est vrai qu'il y a du mieux chez Red Bull. On sent aussi qu'il y a la patte de Laurent Mekies qui est en train de se greffer un petit peu à l'écurie. Voilà, il change 2-3 choses. Helmut Marko en a parlé dans le mode de fonctionnement. Et Verstappen, hein, c'est ce que je disais, mais dès qu'il y a une miette par terre, il est là, quoi, le gars.
Bah, Verstappen, si on met une note à Verstappen, on lui met 5. Ça, il n'y a pas 5 sur 5, 5 étoiles, il n'y a pas de doute là-dessus. Il écrit un peu plus sa légende, il écrit un peu plus la légende de la Formule 1, parce qu'il devient le pilote le plus rapide de tous les temps de l'histoire de la Formule 1 sur un tour. Mais sinon, Oui, assez exceptionnel ce week-end. On le voit en essai, pas forcément à l'aise avec sa Red Bull, mais un peu comme, comme à son habitude. Il cherche des réglages, il tente des choses. Red Bull, un peu de façon désespérée, coupe des ailerons. Ils y vont un peu à tâtons. Et au final, ça marche parce que bah, derrière, il y a un metteur au point, je pense, qui est absolument exceptionnel. Il y a un pilote qui a un talent inné. Voilà, c'est une légende et il l'écrit un peu plus ce week-end. Mais je pense qu'il a quand même eu les armes aussi pour réaliser ça, parce que dire que la Red Bull sur ce week-end était nulle part, ce serait diminuer aussi le travail de Red Bull sur ce week-end, et pour moi la Red Bull avait quand même, alors bien sûr il l'a emmené en pole position, il l'a emmené au bout pour gagner ce Grand Prix, mais il avait quand même certaines armes pour se battre, il avait de la vitesse de pointe au final, mais un week-end où on n'attendait pas forcément un Verstappen à ce niveau, ni une Red Bull à ce niveau, et où au final on est absolument surpris, on laisse les McLaren scotcher, puis alors les Ferrari, bah, on les a pas vus de la course à part les 4 premiers tours avec Charles Leclerc et quelques dépassements de Lewis Hamilton. Il a réussi à aseptiser un Monza en ébullition face au septuple champion du monde. Moi, je tire mon chapeau à cette performance qui est... On parle de Senna, on parle de Schumacher, on peut parler du week-end de Max Verstappen à Monza.
Ça, c'est clair. On va l'écouter, Max Verstappen, et après, je vais te poser une question. Serafin, c'est bien évidemment au micro de Canal+, le diffuseur du championnat du monde de Formule 1.
Cause a fantastic result for everyone.
And of course, bien sûr, ce sont des résultats fantastiques pour nous et pour Laurent Mekies aussi, hein, en faisant partie de l'équipe, de gagner notre première victoire ensemble. C'est un week-end fantastique. Franchement, globalement, le rythme de la voiture est bon. Hein. Sur la plupart du premier relais, on est fort. On a pu créer un écart, donc je suis très content de ça. Bien sûr, McLaren essaie de rester en piste au cas où il y a un safety car. C'est pour ça que l'écart aurait pu être plus grand à la fin. Mais oui, nous ne nous attendions pas forcément à mener ici ce week-end. Donc voilà, vraiment très content. Max Verstappen, du coup, au micro de Canal+. Ouais, Serafin, je voulais te poser la question. Est-ce que c'est pas le premier week-end de la saison où on a senti quand même que Red Bull était capable de rivaliser avec McLaren en termes de perfo?
C'est difficile parce que on l'a senti plutôt satisfait de sa voiture en essai libre. Mais de là à le voir, comme dit Tristan, à ce niveau-là, parce que quand même, il met quand même une belle avance en rythme de course. Là, on est à peu près entre 2 et 4 dixièmes. On sent qu'il y a quand même... on a l'impression de voir presque le rythme qu'a d'habitude McLaren quand ils sont en tête. Donc, de voir avec autant d'avance, c'est difficile. Après, moi, je dirais qu'il y a aussi le fait qu'on a très vite compris que Verstappen était devant, qu'il allait avoir qu'un seul arrêt. Donc pour lui c'était assez, il a géré après le reste de la course comme il le fait d'habitude parfaitement en faisant son arrêt assez tard mais voilà au 37e tour sur ses pneus. Je sais pas si c'est là où il y a eu la plus grosse domination parce que c'est quand même hyper serré en vrai, mais en qualification il allait chercher cette pole incroyable et c'était super serré donc tout pouvait se passer, hein, ouais. Il suffisait qu'il partait deuxième ou troisième, c'était peut-être pas la même chose, mais ouais, difficile de dire si c'était son week-end le plus fort. C'est vrai qu'il y avait quand même sa victoire au Japon aussi, quand même à Suzuka, il avait été impressionnant aussi devant.
C'est vrai. Mais en fait, au-delà de la performance pilote, tu vois, moi, Jean-Luc, j'ai eu la sensation ce week-end que l'équipe n'avait jamais été aussi forte depuis longtemps. Parce que bah, tu sens que, mine de rien, le départ de Christian Horner, ça a assaini beaucoup de choses dans les relations. Tu sens qu'aussi, là, il s'est passé quelque chose ce week-end dans la relation Laurent Mekies-Verstappen. Voilà, qu'il y a des choses qui sont en train de se mettre en place et qui peuvent peut-être faire penser que la Red Bull est vraiment en progression et que là, même si ça reste Monza, on est d'accord,
ouais, ça un reste circuit quand même Monza, bien,
c'est spécifique, je suis d'accord avec
la
vous
voiture,
les gars.
Les ailerons, comme
mais
on l'a dit.
Dans la dynamique de l'équipe, Jean-Luc, moi j'ai eu cette sensation-là.
Bien sûr, bah, de toute façon, là ils ont mis le cap du bon côté. Bon, difficile de l'extérieur, toujours pareil, hein, d'affirmer que déjà la patte de Laurent Mekies, il le dit lui-même très modestement, en quelques semaines, il est très difficile. Alors bien sûr, c'est un état d'esprit, là je suis tout à fait d'accord, effectivement, c'est pas du tout la même personnalité, il n'a pas la même manière d'avoir des rapports avec ses collaborateurs, on peut dire ça comme ça, avec les membres de l'équipe, avec tout le monde. On sent que le courant passe et on n'en doutait pas un instant, compte tenu des qualités de Laurent, qu'il avait déjà amplement démontré à d'autres postes, hein, dans toute sa carrière en Formule 1. Moi, je l'ai connu à la FIA aussi, je l'ai même connu avant. C'est toujours quelqu'un qui a été profondément humain. Alors, c'est la preuve qu'aussi, on peut toujours être humain en Formule 1, ce qui est quand même une très, très bonne nouvelle. Et qu'on peut être honnête également. Et ça, je rends hommage également à Fred Vasseur. Voilà. Vous savez très bien que là aussi, on n'a pas la langue de bois. On dit ce qu'on pense et on pense ce qu'on dit. C'est quand même assez rare pour être souligné, en tout cas pour tous les autres. Donc, c'est évident qu'il y a une patte. Alors maintenant, je pense que le travail de fond qui est mené... Vous savez, je ne suis pas tout à fait d'accord avec vous sur la progression globale de Red Bull. Regardez Tsunoda, et encore une fois, ça n'est pas un mauvais pilote. Hein. On va voir ce qu'Adjar fera l'an prochain, bon, avec des règles totalement différentes. Mais je veux dire, là aussi, pour qu'on puisse dire que l'écurie progresse dans son ensemble, il faudrait que le deuxième pilote... Alors, bien sûr, il est moins mal qu'il n'a été. L'écart avec Verstappen se réduit malgré tout, etc. Surtout sur un tracé bon, où le temps autour est quand même plus limité, là aussi. Il faut le rappeler, toujours, quand on a évidemment des temps à 1,30 ou plus, c'est un peu différent. Mais bon, oui, ça progresse, ça va dans la bonne direction. Moi, je mets quand même beaucoup ça sur Verstappen. C'est la 125e victoire également de Red Bull, hein, on l'a pas dit. C'est sûr que moi, c'est dans l'intérêt du championnat, c'est pareil. Là, on a un resserrement général, hein, vous l'avez vu. Après, on va parler évidemment de ce qu'a fait McLaren et des ordres qu'ils ont donné à leurs pilotes, qui ont donc été respectés. Mais en tout cas, on a un resserrement. Est-ce que pour autant, Verstappen peut se remettre dans le coup au championnat ? Non, j'y crois pas, lui non plus, bien évidemment. Est-ce qu'il peut décrocher d'autres victoires ? Bah, déjà, oui, en Azerbaïdjan, parce que c'est un tracé finalement un petit peu similaire, même si c'est en ville, avec des très longues lignes droites, très peu d'appui, et une portion bon, très lente qu'on va oublier. Mais c'est possible que la Red Bull et Verstappen soient également très bien lors du prochain Grand Prix.
Ouais. Y a eu ce premier virage là, Tristan. Hein. Faut que tu nous racontes un petit peu ce début de course où on s'est dit que Verstappen, pour le coup, lui qui est si froid, peut-être passer un peu à côté. Et puis après, bon, tu sens que la voiture, là, pour le coup, ils ont largement dominé ce Grand Prix hier. Y a jamais eu de moment de doute pour eux, quoi.
Bah, comme souvent à Monza, au premier virage, c'est la foire d'empoigne. Hein. C'est si vous avez regardé les courses de F2, F3, vous voyez de quoi je veux parler. Non. Un premier virage où j'ai été étonné que Max Verstappen relaisse passer derrière Lando Norris parce qu'au final il le pousse dans l'herbe, mais je trouve pas que c'est non plus c'est pas quelque chose où il va vraiment pousser le pilote et il va se retrouver à être...
C'est-à-dire qu'il avait tellement ramassé certaines courses précédentes.
Oui, il avait coupé. Hein.
Il a coupé après le virage, mais j'aurais été étonné plutôt si on lui mette une pénalité, voilà, parce qu'on a vu qu'il y avait une enquête de la FIA sur ce mouvement-là. Justement, mais après oui effectivement bon bah il coupe le virage, c'est un peu sournois, c'est un peu à la Verstappen, hein. Il sait qu'il va pas faire le virage plutôt que de s'entêter à essayer de prendre le virage comme il l'a fait par exemple en 2021 avec Lewis Hamilton en sortant des stands, quand il sortait des stands le septuple champion du monde, bah il coupe, voilà, après derrière il laisse passer, mais ce qui est vraiment impressionnant c'est à quel point une fois qu'il était dans l'air libre il a pu s'envoler à ce point là comme l'a dit Séraphin à coup de dixième par tour. Et des McLaren qui étaient complètement sans armes sur cette course et qui se sont battues au final entre elles. Au début, un petit peu avec Charles Leclerc pour Oscar Piastri, qui a fait un dépassement au premier Lesmo absolument sublime, qu'on voit souvent, mais qu'il a vraiment, pour le leader du championnat face à Charles Leclerc, vraiment assez exceptionnel. Et au final, on a eu cette petite bataille pendant 2-3 tours, en tête, ou les quatre premiers, on s'est dit « Ah, on va peut-être avoir un Grand Prix très, très intéressant. » Et puis après, ça s'est un petit peu aseptisé avec la stratégie à un arrêt très prolongé pour les McLaren et plutôt simple pour Max Verstappen.
Après, il n'y a jamais eu un gap énorme, je trouve. C'est vrai que Verstappen, il a pris l'avantage, mais quand on regardait les chronos, à un moment donné, il y avait 3-4 secondes. Et en fait, ça restait quand même... On sentait que McLaren gardait quand même un rythme.
Ils ont gardé sous le pied.
Ça ne s'est jamais trop écarté.
Quand on compare, par exemple, à quel point s'est écroulé sa Red Bull après... Alors, il était en pneu soft à Zandvoort, mais il s'est vraiment écroulé en temps et où il disait « je me battais avec l'écurisseur Racing Bull, ce qui ne devrait pas arriver ». Et là, on l'a vu, même dans la dégradation des pneus, il n'y avait pas une impression de... Enfin, on avait l'impression qu'il pouvait continuer jusqu'à la fin avec son train de pneus médium sans qu'il y ait de problème. McLaren a presque fait ça, d'ailleurs. Mais non, vraiment une sérénité dans cette course. La course parfaite pour moi, à part ce premier virage.
Mais qu'est-ce l'a dit ?
Il n'y a vraiment pas grand-chose à redire sur la performance de Max Verstappen sur le Grand Prix en lui-même, à part ce premier virage.
Il a utilisé le mot perfection. Alors c'est de la com, bien sûr, hein, mais voilà. Mais il a utilisé le mot perfection pour définir le week-end de Verstappen. Jean-Luc, parlons de McLaren avec du coup Lando Norris qui termine devant Oscar Piastri et cette situation, j'allais dire. un peu un broglio, mais non. Enfin, voilà, il y a une situation un peu délicate à gérer au 46e tour, alors qu'on sait qu'ils vont pas aller chercher Verstappen pour la victoire. C'est mort, sauf s'il y a une safety car qui sort. Il y a une situation dans les stands, et du coup, il y a un pilote McLaren qui rend sa place à l'autre. Faut que tu nous expliques ce qui s'est passé, Jean-Luc, et que tu voilà, essaie de, aussi d'analyser un petit peu cette situation. Qu'est-ce que tu en penses?
Alors, les faits, pour commencer, effectivement, les pilotes McLaren et l'écurie a compris qu'il n'y avait pas grand-chose à faire hier sur le circuit de Monza pour contrer la domination de Verstappen et de sa monoplace. Donc, il fallait tenter autre chose. Alors, on a intercepté quelques conversations, bien sûr, entre pilotes et ingénieurs. On parle de plan. On avait bien compris que le plan, c'était de rester en piste le plus longtemps possible, en restant au contact, d'attendre éventuellement un safety car qui n'est jamais arrivé. À plusieurs reprises, on a cru que ça pouvait venir et puis non. Donc, ce qui aurait permis de regrouper naturellement tout le monde et puis de faire un arrêt qui coûtait peu cher et puis de monter des pneus soft. Hein, c'est ce qui a été fait au final. Alors, est-ce que ça a été fait un poil trop tard ou pas? Bon, on peut toujours en discuter. Il y a la simulation. Après, au niveau des arrêts, d'une manière un petit peu surprenante, on rappelle la Hongrie l'an dernier hein, et la première victoire presque forcée de Piastri dans ces conditions. Eh bien là, on arrête d'abord effectivement le deuxième pilote dans l'ordre, c'est-à-dire Piastri, et puis on fait un arrêt impeccable, hein, 1:09 au stand, c'est le record, on égale le record, donc tout se passe bien. Et puis le tour d'après, on arrête Norris, et là malheureusement tout se passe très mal, par la faute apparemment du pistolet de la roue avant gauche qui ne fonctionne pas bien, donc on perd 4 secondes supplémentaires, ce qui fait qu'on inverse l'ordre des facteurs et l'ordre des pilotes en l'occurrence. Alors là, apparemment, ils avaient discuté de ce type de situation dans le briefing auparavant. Dans le cas où l'erreur incomberait, semble-t-il, à l'équipe, eh bien, on remettrait les pilotes dans l'ordre. Est-ce que c'est légitime? Les autres directeurs d'écurie, évidemment, se sont ouverts là-dessus en disant « Non, ça fait partie de la course, c'est normal qu'il y ait des erreurs. Est-ce que c'est illégitime ?» En tout cas, Piastri s'est exécuté, pas de bonne grâce, je dirais, mais il l'a fait. Il a compris que, une autre fois, après on lui a dit, tu peux y aller, tu peux continuer à te battre. Oui, mais quand il reste 3 tours, je vois pas très bien comment il aurait pu reprendre l'avantage sur son équipier, surtout qu'il n'allait pas tenter une manœuvre délirante. Hein. Il a fait une ou deux petites erreurs, évidemment, dans le dirty air, comme on dit, mais bon. Alors, est-ce que la manœuvre est légitime? Là, c'est vraiment du McLaren typique. Hein. On hésite entre se prendre les pieds dans le tapis. Alors, un pistolet qui ne fonctionne pas, ça peut arriver. Ou un mécano qui dort un peu, parce qu'on a vu la manœuvre aussi. On a vu que c'est un autre mécanicien qui lui tapait. On lui dit, allez, vas-y, c'est pas bloqué. Limite, il repartait avec une roue qui pouvait s'arrêter. C'est vrai que c'est étonnant à ce niveau de performance. Et quand le tour d'avant, on réalise, parce que ce sont les mêmes, hein, évidemment, on réalise un arrêt en 1:09, les voir se ramasser comme ça, parce qu'il n'y a pas d'autre mot. Bon, je pense que là aussi, on va longtemps en parler. Les ordres, les consignes comme ça, me gêne toujours beaucoup, évidemment. Maintenant, ils en avaient discuté, ils avaient envisagé cette éventualité. Je pense que Piastri s'est dit, alors, je perds 3 points. Non, j'en perds 6. Parce qu'évidemment, si lui avait terminé 2e et Norris 3e, l'écart de points, au final, c'était 6. Hein, on est bien d'accord. C'est 3 points en jeu. Mais il en conserve 31. Allez, on va mettre le mouchoir par-dessus. C'est jamais très... Oui, ça, c'est pas le bon côté de ce Grand Prix là, je suis d'accord avec vous aussi, c'est pas très sympa d'ailleurs pour personne, voilà.
Ouais, tiens, on va écouter Lando Norris et Oscar Piastri. On commence par Norris qui a terminé deuxième, son analyse de la course. J'espérais pouvoir faire pression sur Max et que nous pourrions avoir une bonne course, mais il était clairement bien trop rapide pour nous aujourd'hui. Franchement, je ne suis pas le plus heureux avec la deuxième place. Je voulais gagner, mais c'était impossible aujourd'hui. On apprend tout ça, on n'est pas assez rapide. L'équipe veut qu'on se batte comme des hommes. Si l'un d'entre nous a un mauvais arrêt comme aujourd'hui, selon la raison, sur ce qu'on s'est dit, parce que si j'arrive dans les stands, si c'est de ma faute, il n'y a pas de problème. Mais aujourd'hui, on a eu un problème avec les pistolets ou autre chose. Donc c'est un élément qui n'est pas forcément de mon ressort. C'était hors de mon contrôle. C'est pas quelque chose que j'ai choisi et c'est ce qui fait aussi qu'on est une bonne équipe et qu'on travaille bien ensemble. C'est ce genre de décision qui fait qu'on s'entend bien. Avant d'écouter Piastri, les gars, là, c'est Raffin. Le truc, c'est que moi, je me dis, je vois ça à la 46e tour. Je me dis, ils vont peut-être un peu enfin s'embrouiller, les deux pilotes McLaren. Là, ça y est, tu vois, il va peut-être. l'odeur du sang. Hein. Des fois, ça. Non, mais tu vois, ça aurait été un petit peu. Voilà, bien sûr, je me suis dit, ça y est, c'est pour nous, on va avoir des choses à raconter. Cette gestion parfaite, là, va enfin partir en sucette. Bah non, même pas. Même pas, tu vois. Les mecs s'entendent toujours aussi bien, c'est carré, ça respecte les consignes, ça bouge pas. La com, elle est rodée. Enfin, voilà quoi, hein, c'est la fin.
Bah, je trouve ça intéressant le point de vue de Jean-Luc. C'est vraiment ce que fait McLaren depuis le début. Et je pense que l'interprétation aussi de ce qui vient de se passer est très liée à ce qui s'est passé le week-end précédent avec Zandvoort. Parce que partir du moment en fait, où on a dit à Norris, c'est pas ta faute, mince, c'est un problème au niveau du châssis, donc maintenant qu'on le sait, de la voiture, et ben pour pas, effectivement, et comme l'a dit Jean-Luc, ça a été donc, dit avant la course, ces consignes-là, que s'il y a un incident comme ça qui n'est pas du fait des pilotes, on va essayer d'annuler ce qui s'est passé pour le pilote. Donc j'ai l'impression que c'est Norris, il a encore quelque chose qui est pas à son avantage, malchance, l'arrêt au centre qui se masse pas avec le pistolet, et ça arrive bien sûr, et beaucoup d'arrêts d'ailleurs qui ont été mal exécutés. Bon, là c'est avec le pistolet, on a vu que c'était même pas assez serré, et le mécanicien l'a vu trop tard, hein. On a vu que ça clignotait sur le pistolet. Mais c'est aussi pour dire, encore une fois, Norris, il a un problème qui n'est pas de sa chance, qui n'est pas de son fait. Et donc, il ne peut pas se battre à Armégal face à Piastri. Ah, donc, on va annuler. Attends, tiens, entrons la place. Donc, c'est vrai que c'est difficile. Après, la décision aussi, si j'ai bien compris l'interprétation de ce qui s'était passé, c'est qu'on a quand même demandé à Norris s'il voulait bien s'arrêter. Et il a dit non, vous pouvez arrêter Oscar. Alors que je pense que à partir du moment où le pilote est devant factuellement en termes de position, on arrête le pilote numéro 1, point, et on évite justement une situation on évite un undercut ou une situation comme ça.
Je pense que McLaren, ils ont fait ça parce qu'ils ont eu peur que derrière, si Norris s'arrête et qu'il y avait une safety car, que derrière Piastri se retrouve devant Norris, un peu comme on l'a vu à Silverstone en 2022 avec les Ferrari, avec Leclerc qui s'était pas arrêté, mais Sainz qui était derrière en pneu neuf. Je pense qu'ils ont voulu prévenir ça et ils se sont dit, ils ont tellement d'écart que si on n'arrête jamais, Oscar Piastri aura le temps de faire l'undercut sur Lando Norris. Même si je suis d'accord sur le fait que Lando Norris, pour moi, parce que c'est la règle...
Il y avait 6 secondes avant l'arrêt.
Oui, c'est un peu la règle, c'est comme un gentleman agreement. Celui qui est premier en piste a le droit de s'arrêter en premier, c'est celui qui dicte la stratégie, parce que justement, très souvent, l'undercut, donc le fait de s'arrêter avant, est plus rapide que le fait de s'arrêter après. Donc on donne la priorité souvent, celui qui est leader. Et là, je pense que McLaren, ils ont tellement réfléchi qui se sont dit, non mais attends, on va proposer à Lando d'arrêter Oscar d'abord parce qu'il y a 6 secondes d'écart, il n'aura jamais le temps de faire l'undercut, et comme ça, au cas où s'il y a une safety car, eh ben, tu gardes la position sur la piste pour t'arrêter et être devant, ce qui n'aurait pas été le cas si c'était Piastri qui ne s'était pas arrêté. Ouais. Mais le problème avec ça, c'est qu'en fait, on brouille les cartes. On parlait de ça avant avec les règles jeudi dans la preview du Grand Prix, en disant les idées de Stefano. Dans le warm-up, dans les nouvelles idées de Stefano Domenicali. Là, c'est un peu pareil. Laissez-les se battre, laissez-les faire leur stratégie. Le classement constructeur, McLaren a tellement marqué de points que le Grand Prix prochain à Bakou, s'ils font 1 et 2, ils sont champions constructeurs. Le championnat est plié. Laissez-les se battre pour le championnat. Laissez-les faire leur stratégie individuellement avec leur pôle d'ingénieurs à eux, et laissez-les se battre sur la piste plutôt que de tenter de maximiser un résultat qui aurait forcément été deuxième et troisième, parce qu'ils n'auraient jamais réussi sauf une safety car. Mais ça, c'est là où j'ai pas compris et où j'ai trouvé c'était vraiment dommage, parce que en plus derrière, c'est aux pilotes qui doivent aller devant les médias et qui doivent s'expliquer sur une erreur qui est absolument pas la leur,
justifier une stratégie qui
n'est pas la leur. Alors heureusement, ça a été discuté avant, parce que si ça avait pas été discuté avant, je pense qu'on en aurait entendu parler. Mais derrière, ça met une pression sur les pilotes et les gens qui s'arrêtent à ce qu'ils vont en piste. Ils vont dire, Lando Norris, en gros, on le favorise, et Oscar Piastri, lui, à chaque fois, il doit rendre les positions ou des choses comme ça. Alors que, en fait, laissez-les se battre. Donnez-nous le spectacle qu'on a besoin et laissez-les faire leur stratégie.
Et puis pour rebondir sur ce que tu dis, Tristan, le problème de McLaren maintenant, à force de vouloir être trop propre, trop clean, c'est dans l'époque, hein, et ben ça devient emmerdant.
Ils s'en mêlent les pinceaux.
Ce qu'on veut, c'est du combat. Nous, on l'a dit. Ouais. On les a assez loués d'ailleurs pour laisser leurs pilotes leur laisser la bride sur le cou, leur dire battez-vous. Comme là, bon, les trois derniers tours, c'est un peu virtuel. Hein, dire ah ben tu peux y aller maintenant hein, si t'as envie de l'attaquer. Oui, c'est impossible. Enfin, c'est grotesque même. C'est presque ridicule. Donc, à être trop bien pensant, trop clean, trop nickel, ben on est un peu ennuyeux. Alors effectivement, on espère tous qu'à un moment, il y en a un qui va prendre le couteau entre les dents en disant bah non, là, je vais faire comme moi j'ai envie. Et puis voilà.
Bah oui,
et ça dénote aussi la personnalité. Et à mon sens, compte tenu de celles que l'on présuppose, on ne les connaît pas par cœur, ça viendra plutôt de Piastri, hein, qui à un moment, lui, va se révolter, va dire bon, ça va les gars, maintenant, c'est moi le leader du championnat d'abord, je joue le titre et vous allez me laisser le jouer. Voilà, terminé.
Bah, Max Verstappen, d'ailleurs, il a expliqué que lui, il n'aurait pas laissé passer
Piastri.
Et à la radio, en plus, on lui explique qu'ils ont échangé les positions. Lui, il se tape,
il rigole
et il dit mais c'est quoi cette équipe ? Mais ce n'est pas forcément le fait que ce soit ennuyeux pour moi le problème, parce que ça, c'est McLaren, c'est normal dans un sens qu'ils choisissent une stratégie ennuyeuse, parce que c'est une stratégie qui, pour eux, est intéressante. Mais ça, en début de saison, j'aurais pas eu de problème. Là, le week-end prochain, s'ils font 1 et 2, ils sont champions constructeurs. Alors, ils n'ont pas déjà le championnat, mais ils ont tellement d'avance. Pourquoi ne pas laisser, après la mi-saison, au moins les pilotes se battre un minimum, plutôt que d'essayer de faire des stratégies qui, au final, desservent plus l'équipe, parce qu'ils sont passés pour des ridicules hier quand même. Hein. Aux yeux de tout le monde, ils sont passés pour des ridicules. Alors que, de base, cette stratégie assez conservatrice de dire « bah, on donne notre chance aux deux pilotes et on essaye de ne pas brouiller les cartes », moi, je la trouve très louable, surtout en début de saison. Mais là, maintenant, c'est bon, quoi. Il faut se battre aussi. Et puis, au bout d'un moment, il faut dire...
Attrapez-vous par le callback, c'est ça qu'on veut voir.
Je dis pas qu'il faut qu'ils se rendent dedans, mais laissez-les se battre et laissez-les surtout faire leur stratégie eux-mêmes plutôt que
Et puis, on attend le vrai duel entre les deux aussi.
Ah oui,
on l'a pas eu. On l'a pas eu.
On
est frustré, on l'a pas eu.
Moi, c'est ce que j'allais dire. Là, t'arrives, là, t'as 16 Grands Prix dans les guiboles. T'attends ce duel, là, t'attends l'explication sur la piste, peut-être même en dehors avec les micros. Mais je sais pas, on a envie que ça vive,
quoi.
Il n'y a que 30 points d'écart entre les deux.
C'est trop lisse.
Oscar Piastri, tiens, on l'écoute au micro de Canal. Lui aussi, raccord hein, avec Lando Norris sur la ligne de l'écurie. On l'écoute.
Yeah, I think for me today, you just lacked some pace in the beginning of the race.
Pour moi, aujourd'hui, j'ai manqué de rythme en début de course. Vers la fin du relais avec les médiums, je me sentais vraiment bien et j'étais capable de réduire l'écart avec les voitures devant. Mais la balance était dure à gérer aujourd'hui sur la première partie de la course. On a appris des choses sur ce qu'on peut améliorer la prochaine fois. Aujourd'hui, franchement, c'était équitable d'échanger les positions. On veut tous les deux gagner le championnat grâce à nos performances en piste et aux choses que l'on peut contrôler nous.
Alors, juste Nico, une idée qui me vient. S'il y avait eu que quelques points d'écart entre les deux, est-ce que l'attitude de Piastri aurait été la même ?
Je suis d'accord, Jean-Luc.
Ça, c'est une vraie question.
Je pense que oui.
Je pense que s'il n'y a pas Zandvoort la semaine dernière, de toute manière, tu vois pas forcément ça.
Ben, je suis pas d'accord. Je pense que justement, Oscar est pour le coup vachement fair-play. Et je pense qu'il a surtout pensé aux conséquences de s'il faisait ça maintenant. Parce que là, techniquement, il sait que Lando lui en doit une. Entre guillemets.
Ouais.
Alors, il sait que s'il y a un peu la même situation qui arrive. Bah, il lui en doit une.
Ouais,
et
mais
ça montre aussi.
On est d'accord
Lando...
qu'à deux courses de la fin, ils vont se crever.
Ah non, mais à deux courses de la fin,
jamais Norris,
ça,
jamais Norris fera le John Clement britannique à deux courses de la fin en repensant. Ah bah, Monza, il était
si
cool.
Si le titre est en jeu,
Oscar.
Tu parles.
C'est sûr que si Norris, ça le faisait passer devant ce week-end au classement pilote, je suis pas sûr qu'il l'aurait fait. Mais après, faut aussi relativiser. C'est pas non plus un vol que Lando Norris termine devant parce qu'il a été largement meilleur.
Non, je
précise bien, mais je pense que ça a joué dans l'idée de Piastri de savoir que il a vu qu'il était quand même moins rapide que Lando Norris, en tout cas sur ce Grand Prix-là. Il avait un moins beau rythme, donc il s'est dit ça reste dans la logique des choses. L'équipe n'a pas non plus, c'est pas non plus la
c'est
faute.
Pas une injustice,
c'est pas la faute de Lando Norris s'il est derrière. C'est plus la faute de l'écurie.
Donc, dans le passé, on a vu plein plein de titres décidés comme ça,
ah, bien sûr,
par des erreurs d'équipe, à quelque niveau que ce soit. Ça fait partie de la course. C'est ce que tous les autres ont dit, d'ailleurs. Je te dis, à vouloir être trop clean, trop nickel, trop gentil entre eux, trop bien élevé, bah, ça devient incompréhensible, effectivement. Et on se prend un retour de bâton.
C'est pour ça que pour moi, c'est passé hier.
Et effectivement, le leadership du championnat. Pardon ?
On est de mauvaises personnes, nous. Nous, on pense à
la gagne. Oui, mais non, on aime la bagarre, c'est tout. On aime... Alors, encore une fois, on ne va pas les accabler. Je comprends le raisonnement, mais dire ah ben il a été bien sur toute la course, ben oui, mais et quand tu perds tout dans le dernier tour, quand tu casses dans le dernier tour, quand tu te fais accrocher dans le dernier tour, des erreurs, il y en a plein. Quand le moteur, ben regarde, Norris, à quelques tours de l'arrivée, il a ce problème technique. Bon, c'est injuste, mais c'est comme ça. Ce qui compte, c'est de passer sous le drapeau à damier. Ouais, bon, après, on peut avoir des opinions. Encore une fois, c'est pour ça que c'est intéressant. Hein. Si on est tous du même avis, on enfonce des portes ouvertes. Là, on discute, on n'est pas d'accord, tant mieux.
C'est pour ça que dès le moment où ça s'est passé, moi, j'ai eu ce sentiment un peu de dégoût quand même, parce que ça fausse totalement les cartes, comme je l'ai déjà expliqué. Et puis surtout, moi, j'ai l'impression, enfin, McLaren doit surtout s'excuser auprès de ses pilotes, parce qu'ils les mettent dans une situation qui est absolument honteuse. En termes de, enfin, les pilotes passent pour des sauvages qui, en gros, veulent pas se laisser rendre les positions, etc. Parce que si Piastri rend pas la position hier, c'est pas non plus honteux selon moi. Voilà, parce que
c'est un fait. Mais
s'il l'avait fait, il se serait fait incendier par tout le monde. Et je ne sais pas quelle aurait été la réaction de McLaren. Et même face aux spectateurs de la Formule 1, ce genre d'événement, je trouve ça assez honteux. Et alors, c'est toute proportion gardée, ça rappelle des épisodes où on laisse Michael Schumacher gagner en Autriche alors que son coéquipier...
C'est les pires heures de la Formule 1 pour moi, vraiment.
On rentre dans une spirale avec McLaren qui, en début de saison, pour moi, me gêne absolument pas, parce qu'encore une fois, on joue un championnat. Le championnat est joué, laissez-les piloter, laissez-les
se foutre. Là où je suis d'accord avec toi, Tristan, c'est que Piastri n'avait peut-être pas de bonnes raisons pour mettre le feu là
il a aucun course. Intérêt, ça l'aurait plus desservi, je pense.
Il a 31 points d'avance.
Il a plus de 30 points d'avance. Tu vois,
il a plus d'une victoire nette d'avance. Qu'est-ce que vous voulez
Ça n'empêche que dans la même situation, c'est vrai que Max Verstappen l'aurait probablement pas laissé passer Lando Norris. C'est ça qui aurait été intéressant à voir aussi.
Et plein d'autres teigneux.
Oui, plein d'autres.
Bah oui.
Revenons sur les perfs de la Scuderia sur le week-end. Séraphin, Charles Leclerc 4e, Lewis Hamilton 6e. Nous, dans le warm-up, qui est bien évidemment toujours dispo, on parlait du week-end important pour Hamilton. Hein, après ses déclarations à Zandvoort, son abandon, le fait qu'on avait l'impression qu'il n'y était plus du tout et qu'il avait du mal. On va débriefer tout ça. On va écouter Leclerc au micro de Canal sur sa 4e place. Et après, je reviens vers toi pour parler du week-end de Ferrari.
McLaren avait toujours un œil sur nous, donc ils ont fait une stratégie qui était assez sous-optimale pour eux, mais je n'ai pas encore analysé leur course, en espérant avoir un safety car jusqu'au dernier moment, et donc du coup ils ont perdu beaucoup de temps comme ça, donc je pense que l'écart des 5 secondes n'est pas le vrai. Je pense qu'ils avaient clairement la perfo pour être beaucoup plus proche de Max s'ils aient la stratégie optimale, mais pour nous malheureusement on n'avait pas grand chose à faire de plus, je pense, aujourd'hui. J'ai tout fait pour essayer de gagner une place, mais malheureusement, on est allé en surchauffe tout de suite. Et c'était ultra compliqué après, pendant 7-8 tours, j'ai dû essayer de récupérer les pneus arrière parce qu'ils étaient allés en surchauffe de beaucoup. Donc voilà, c'était drôle pendant quelques tours, mais pas drôle du tout après, pendant de nombreux tours après. Mais bon, j'ai essayé.
Ouais, il parle du début de course, hein, où il a essayé de tenter quelque chose sur les McLaren. Séraphin, ce week-end de Ferrari, comment tu... Mais c'est vrai que, en fait, quand on voit Ferrari à Monza, on se prend toujours à rêver d'un exploit, parce que on repense à la victoire de Charles Leclerc l'an dernier, qu'on a envie de voir les tifosi qui envahissent la piste à la fin avec une victoire de la Scuderia. Bon, ça a été compliqué quand même là ce week-end.
Et ça a été compliqué tout en relativisant, moi, en me disant que c'est plutôt un week-end qui est satisfaisant.
C'est solide, quoi.
Qui est solide.
Non, solide.
Je trouve qu'ils sont quand même troisième force. Si on voit par rapport à McLaren, ils sont derrière. Et Mercedes qui était assez proche. Mais franchement, Charles Leclerc, il a fait ce qu'il a pu. Moi, je trouvais déjà aussi que l'écart, et j'en avais parlé lors du warm-up, entre Charles et Lewis, je crois qu'il est près d'un dixième en qualif. Ils sont vraiment très, très proches.
117 millième, ouais.
Merci Jean-Luc. Voilà. Donc c'est vrai que je trouvais que.
Sans prise.
Je trouvais que justement Hamilton a haussé et a montré ses capacités, et c'est positif. Donc il s'est qualifié pas très loin. Et Charles Leclerc, encore une fois, c'est tellement serré. Cette qualification, elle est incroyable, mais c'est tellement serré que. Il pouvait passer de deuxième à sixième à même pas un dixième. C'est ça qui est incroyable. Donc il part d'une quatrième place et il fait la course qu'il peut. Il s'est battu quand même pendant quelques tours au début. Tristan l'a dit, il y a ce magnifique dépassement à l'ESMO sur Piastri du coup à ce moment-là. En tout cas, il a fait ce qu'il a pu et même lui le reconnaît. Après, c'était compliqué et sa voiture allait surchauffer en étant derrière le McLaren. Donc, je trouve qu'il s'en est sorti. Ils ont aspiré comme beaucoup aussi un safety car. Et Lewis Hamilton, il fait une bonne course. Il remonte sixième. Il a fait des beaux dépassements. Lewis Hamilton, c'est quand même lui qui a la plus grosse vitesse de pointe, hein, 365 km/h quand même. Je trouve qu'il a fait ce qu'il pouvait. Et je trouve que Ferrari, ils sont sur ce week-end et c'est dur de les voir faire une meilleure situation. Il aurait fallu que
arrive en piste. Ils n'ont pas surperformé, tu vois, mais ils ont fait un week-end.
Ils l'ont dit, désolé aux tifosi en disant on n'est pas sur le podium, mais voilà, on s'est battu, ils ont tout donné et ça, on en est sûr devant leur public. Il y avait quand même ces belles images à la fin. L'envahissement était magnifique. On a vu aussi les pilotes après quelques minutes après l'arrivée.
Ils ont été acclamés quand même.
Voilà, ils ont été acclamés. Ils ont salué la foule et c'était incroyable. Donc c'est positif et je trouve que aussi Lewis Hamilton. Évidemment, j'attends de voir sur encore des grands prix, mais je trouve que c'était un bon week-end. Sincèrement,
moi c'est ce que j'allais vous demander les gars et c'est ce que j'allais te demander Jean-Luc parce que bon. Charles Leclerc, il a fait sa course, il a tenté un truc, c'est pas passé, il termine quatrième, c'était le max de ce qu'il pouvait faire et franchement, on voyait pas.
Beau jeu de mots, c'était le max.
Ouais, ouais. Ouais, c'est vrai, c'était le max. Par contre, la bonne indication du week-end et la bonne chose là pour la Scuderia, c'est quand même la perf d'Hamilton. Parce que le week-end dernier, il avait le moral au fond du seau, au fond des chaussettes, au fond de tout ce que vous voulez, Lewis Hamilton. Et là, quand même, il a su relever la tête dans un contexte particulier à Monza où on disait que fallait pas taper à travers et que même lui, le septuple champion du monde, quand même, le contexte était particulier à appréhender, Jean-Luc. Et pour le coup, il a répondu présent.
Oui, écoute, performance d'ensemble, on va dire, entre bien et honorable. Ils ont servi ce qu'ils pouvaient faire. Alors, on a parlé d'écart, mais on va pas le répéter à chaque Grand Prix. C'est vrai que j'ai bien regardé, bien lu, bien écouté toutes les déclarations des pilotes et de Fred Vasseur. Ça tient vraiment à un souffle, mais on va pas le dire à chaque fois. Effectivement, Lewis a bien performé ce week-end. Il était derrière, mais de très peu, en qualif, hein. Ça tient un souffle quand même, un gros dixième de seconde, c'est rien du tout. Donc tant mieux, il s'est remis à l'aise. Les tifosi, de toute façon, on l'a évoqué avant, ont toujours et heureusement les yeux de chimène pour tous les hommes en rouge, même s'ils n'étaient pas complètement en rouge cette fois-ci, mais ça fait rien. C'est l'esprit qui perdure en tout cas, et c'est l'ambiance générale. Et ça, c'est formidable, effectivement. On peut dire tout un peuple qui soutient comme ça une équipe et des hommes. Puis en plus, bon, Charles, c'est quand même un héros, hein. Il est quand même monté deux fois tout en haut du podium, là, qui est une expérience absolument incroyable. Pierre en parle encore, hein, lui aussi, qui a eu cette chance de gagner à Monza. Donc, c'est quand même un événement absolument unique au monde, là aussi, on peut le dire. Hein, l'envahissement de cette piste, cette marée rouge, avec cette passion du sport automobile qui régénère, quoi, je peux vous dire, pour avoir eu la chance, évidemment, d'y aller un paquet de fois. Quand on arrive là, on a les poils, quoi, c'est vraiment ça. Hein, on est subjugué, on est dynamisé, on est pris dans cette ambiance générale et on ne peut qu'adorer Ferrari et espérer le meilleur. Alors, tout ceci posé, il y a quand même des lueurs d'espoir. Déjà, la première, ils sont deuxièmes au championnat constructeur. Et je pense que globalement, en tant qu'équipe, hein, là, cette fois, je réutilise les mots que les pilotes sont obligés d'utiliser tout le temps, c'est la meilleure performance d'ensemble. Et oui, parce que les deux pilotes marquent. Je ne vous rappelle pas chez Red Bull comment ça se passe. Et malheureusement, chez Mercedes aussi un peu. Il faut commencer à le dire là aussi. Et d'ailleurs, je sais, il avait la pression. On en parlera peut-être un peu plus tard, le petit Kimi. Mais là, il commence à démontrer un peu ses limites. Hein, parce que bon, il aurait dû faire mieux que ça. Bon, donc globalement, et heureusement d'ailleurs, on a deux pilotes de qualité, d'expérience, qui tirent vraiment le meilleur de leur monoplace. Et j'espère que les soucis psychologiques de Lewis sont loin derrière lui maintenant, et que lui aussi, il a pris une belle décharge, une belle bouffée d'optimisme et d'enthousiasme. Et bah, les courses comme celle-là. Alors, pareil, j'aimerais m'enthousiasmer un tout petit peu plus s'il avait passé Russell, par exemple. Là, j'aurais dit, c'est génial. Là, c'est bien. Il a fait le boulot, il l'a fait correctement. Les temps autour, il y a longtemps que je ne vous les ai pas sortie. Bon, ah, ça vrai. Va être pour maintenant. Alors, il reste à 3 dixièmes quand même de la perf de Charles. Hein. Charles, au 53e tour, donc juste à la fin, il est en 1:21.294 et Lewis est en 1:21.546. Il est un petit peu derrière. Bon, après, et là aussi, il fait ça tout à la fin, hein, lui, au 50e tour. Bon, c'est pas si loin, on peut dire quand même, de ce qui se passe devant, hein, notamment des McLaren, parce que 1:21.245 pour Piastri au 47e tour et 1:20.901 pour Norris. Bon, on se regroupe, on a le sentiment quand même qu'on progresse chez Ferrari, ça, les pilotes en bénéficient et comme toujours font le maximum. Moi je ne désespère pas de voir, vous me voyez venir, une victoire Ferrari avant la fin de la saison avec des circonstances de course. Voilà.
Et pourquoi pas la semaine prochaine.
Et pourquoi
quand
pas la semaine prochaine,
absolument. Quand on voit le rythme absolument. À Monaco, et pourquoi pas
absolument.
La Baku prochaine.
Ouais.
À Baku, ouais. Alors, c'est dans 15 jours, je crois.
Oui, dans deux semaines, oui. Mais vu quand on a vu la performance de Charles Leclerc à Monaco...
Parce que là, j'avais posé un week-end, je me suis dit, il m'a flingué le week-end. Attends, est-ce que je me suis...
C'est vrai.
Les gars, on écoute Lewis Hamilton au micro de Canal+, et ça fait plaisir de voir Lewis Hamilton qui fait une interview de plus de 7 mots. Cette année, je suis un peu dur, mais c'est pas faux. Allez, Lewis Hamilton. Je pense que c'est OK, franchement, aujourd'hui. C'est pas trop mauvais. Je pouvais pas vraiment demander beaucoup mieux, pour être honnête. Hein. J'ai eu un super premier relais, il y a eu de bons dépassements. Je pense qu'on aurait pu sans doute être cinquième à la fin en essayant d'étendre le relais, mais ça n'a pas marché. Et j'en ai beaucoup appris sur la voiture aujourd'hui. Je pense que petit à petit, je m'adapte de plus en plus à cette voiture. Avec l'approche que j'ai, j'espère qu'on peut continuer de progresser. Voilà, Lewis Hamilton.
Ben voilà.
Qui, ben oui, mais c'est
ben
tout ce
oui,
qu'on voulait entendre,
arrive.
Jean-Luc.
On y arrive.
Mais tu vois, je me demande si quand même il n'a pas fallu qu'il se prenne ce petit coup de pression là. Alors, même si coup de pression, on relativise hein, sur un septuple champion du monde, la pression, il l'avale. Mais quand même, se mettre dans le dur comme ça avant Monza, je pense que forcément il a appréhendé le week-end Tristan d'une manière différente peut-être que les précédentes courses avec Ferrari. Hein.
Je ne sais pas si c'est un coup de pression ou si c'est plus quand il a vu à quel point ça représentait quelque chose de porter un t-shirt Ferrari à Monza.
Ouais.
Moi, je pense que c'est vraiment à partir du moment
où... Tu penses que ça s'est passé le jeudi quand il débarque sur le circuit et qu'il voit tout ce qui se passe autour de lui.
Mais avant,
à Milan,
quand il a un accueil, on en avait parlé donc dans le warm-up de Pape, là, vraiment, avec Charles Leclerc. Je pense que c'est là où en fait... Tout votre, même si Jean-Luc aime bien dire que c'est pas forcément le rêve officiel de Lewis Hamilton d'avoir été chez Ferrari, mais tout ce que vous...
Ça l'est devenu.
Ouais, voilà, exactement. Voilà. C'est tout ce dont vous rêvez chez Ferrari prend forme sur un week-end, et tout ce dont on vous parle toute l'année se réalise sur une semaine, parce qu'en fait, c'est une semaine complète au final. Et je pense que ça lui a vraiment fait du bien mentalement de voir que... il n'était pas tout seul à continuer à espérer d'avoir des bons résultats, déjà. Et deuxièmement, qu'il n'avait pas signé juste pour le pognon et qu'il y avait quand même un... Quand, les images que j'ai vues de Lewis Hamilton, moi je voyais un gamin qui avait juste les yeux émerveillés devant ce qu'il voyait et qui prenait en photo et en vidéo à chaque fois qu'il passait devant quelqu'un qui lui disait Lewis, ti amo. Ouais. Donc moi je pense que ça lui a fait énormément de bien. Peut-être que ça va lui donner un peu plus de confiance sur fin de saison et ensuite sur 2026. Après, là où j'étais un peu plus déçu, bah, c'est au final de ne pas tenter quelque chose. Parce que je me suis dit, Lewis Hamilton, il prend ses places de pénalité, il est en Q3. Allez, on lui met le train de pneus neufs et il fait un tour en décalé avec tout le monde. Comme ça, il donne une aspiration à Charles Leclerc. Je sais pas, je suis resté un peu sur ma faim sur ce côté-là. Ouais. Ou alors peut-être
Fred s'est expliqué, hein, t'as vu là-dessus.
Ou alors prendre un...
Qu'est-ce qu'il a dit, Jean-Luc, Fred Vasseur, à ce sujet?
En substance, il a dit, on a choisi de pas le faire, et puis là c'était vraiment le considérer comme un deuxième pilote, c'était humiliant, tu vois, je crois que c'est honnêtement ils ont bien fait de pas le faire, mais parce que sincèrement même lui psychologiquement il est fragile, hein, Hamilton, on l'a bien compris, il est fragile psychologiquement, le fait de l'utiliser de cette manière là pour effectivement peut-être décrocher la pole pour Charles, c'était dur à avaler, très dur à avaler, donc je crois que c'était la bonne décision, ils ont bien fait de pas le faire.
C'était peut-être la bonne décision, mais après quand tu prends 5 places de pénalité aussi, ça s'explique, je pense que ce choix aussi de peut-être donner l'aspiration tout en lui donnant un tour rapide, hein, ça aurait peut-être pu s'expliquer. Bon voilà, c'est un tout petit peu le bémol de ce week-end, je trouve, de Ferrari, c'est pas d'avoir tenté quelque chose, en tout cas avec Lewis, même si au final il fait une bonne remontée. Mais on a vu que cette Ferrari, dès qu'elle était dans le DRS, bah, elle était plutôt rapide. Alors quand il n'y avait personne devant et que c'était hors zone DRS, c'était peut-être un peu plus compliqué Même s'ils ont, même si au final il a fait une belle vitesse de pointe dans le trafic Lewis Hamilton, mais un week-end pas trop mal, même si c'est dur de se réjouir d'une P4 et d'une P6 pour Ferrari à domicile, mais quand on compare aux années précédentes, bon bah 2020 on n'en parle même pas, 2021 encore moins, donc voilà, à relativiser, mais on voit du positif en tout cas dans,
on se rapproche,
dans,
on
le,
se rapproche.
Dans le body language, etc. Exactement. Et puis encore une fois, moi,
et puis ça fait du bien de le voir comme ça.
Oui. Et encore une fois, que... je tire mon chapeau moi aux mécaniciens Ferrari qui ont encore fait un week-end parfait sur les arrêts au stand, etc. Dans l'exécution, même la stratégie, on a l'impression que ça prend quelque chose, la compréhension un peu plus de comment, qu'est-ce qu'on veut faire et quand. Même si on a vu Charles Leclerc encore une fois avoir des petits problèmes à la radio, de dire mais pourquoi vous me changez de pneus alors que
je pense que
c'était la bonne solution parce que c'était qui avait boxé, c'était George Russell je crois, donc c'était un peu une manœuvre de protection de la part du
27e et Charles
oui, 27e et 33.
C'est là où on voit que on voit que quand on est pilote, on n'a pas toute la vision sur la course et que son ingénieur Charles Leclerc lui a dit je t'expliquerai après pourquoi on a fait ce choix. Mais en tout cas, dans le côté relationnel, dans le côté body language, tout ce qui n'est pas lié à la performance, ça semblait un petit peu mieux ce week-end. Et ça sera forcément un boost pour la fin de saison.
Vous voyez là, on touche du doigt juste un éclairage sur justement ce qu'est devenu la Formule 1. Encore une fois, je ne vais pas ni le critiquer, ni dire c'était mieux avant, c'est pas vrai, mais avant c'était différent. Parce qu'avant c'est le pilote qui décidait. Et vous voyez, en fonction de son sentiment, en fonction de sa vision de la course, et tous les grands, à commencer par Alain Prost, parce qu'il le disait souvent, Ayrton Senna aussi, regardez les écrans de télé pour voir et avoir des infos complémentaires en bord de piste ou même l'attitude du public, enfin tout un tas de choses qui intégrer et eux-mêmes décider. Maintenant, évidemment, on a des bataillons d'ingénieurs avec tout un tas d'ordinateurs qui font des simulations en permanence. Et bien sûr, le pilote n'est plus ou pratiquement jamais le dernier à décider. On lui dit, tu fais ça, on t'expliquera plus tard. Ah bon, d'accord. C'est un petit peu dommage à mes yeux parce que c'est une qualité de vision, de stratège, de lucidité qui prédominait précédemment et ça n'est plus totalement le cas. Voilà ce que je voulais dire.
Et d'ailleurs, pour confirmer un peu ce que tu disais, pour expliquer un petit peu la perf de Red Bull, Helmut Marko a parlé de la méthode de travail entre Christian Horner et Laurent Mekies notamment, et il disait on est sorti un petit peu du simulateur et de toutes les datas qu'on analyse via les simulations, et on a fait un peu plus confiance ce week-end au ressenti des pilotes, et c'est vrai que ça a beaucoup plu à Verstappen et ça a plutôt pas mal fonctionné. Voilà, pour confirmer un petit peu ce que tu disais, Jean-Luc. Je voulais qu'on parle, les gars, aussi du Isaac Hadjar, parce qu'une semaine après Zandvoort, on se demandait si notre pilote français allait digérer ce gros résultat. Il s'est passé plein de choses, parce que le lendemain de Zandvoort, il est rentré chez lui, mais c'est à Faenza, il a un appartement à Faenza, là où il y a son usine, il allait fêter ça avec l'équipe, il a eu des opérations médiatiques, il a enchaîné très très vite avec Monza, donc on avait hâte de voir un petit peu sa digestion de l'événement. Il a un souci qui le force à changer de bloc moteur parce que Racing Bulls avait déjà épuisé le quota. Donc, du coup, il part de la voie des stands et là, il va chercher une 10e place. Encore, les gars. C'est Jean-Luc ce que fait Isaac. Moi franchement, on le sentait capable de faire un coup, de faire un exploit. Mais dans la régularité, une semaine après avoir vécu ce qu'il a vécu, avec toutes ses stats, un peu plus jeune pilote français de l'histoire, monté sur un podium, le cinquième plus jeune pilote de tous les temps, moi je me suis dit, il va lui falloir une ou deux courses, là, ou au moins une course, avec un petit break de 15 jours pour décharger les émotions. Et en fait, pas du tout.
Écoute, c'est super. Là, franchement, il est sur la très très belle trajectoire. Je me répète et je vous promets que c'est la dernière fois. Voilà ce que j'attendais vraiment de lui. Là, on peut dire que oui, il confirme ses qualités parce que ça n'est pas évident, effectivement, de redescendre du podium comme ça. Il a un esprit positif. Les qualifs ont été difficiles, compliqués, avec effectivement des problèmes techniques. Bon, ça, lui le savait qu'ils allaient devoir changer, donc il allait partir de loin. Et il a fait le boulot et remarquablement bien. Bon, il a été un petit peu servi par notamment les pénalités appliquées à Habermann et à Antonelli, mais ça fait partie de la course automobile. Il était là pour récupérer ce qu'il fallait, donc il termine vraiment avec, là aussi, un bon tour en course. Il est à 4 secondes donc d'Antonelli, Pardon, Tony est resté devant hein, malgré la pénalité, mais bon, c'est Berman qui est passé derrière. Mais il fait un travail remarquable, il est solide. Maintenant, ça n'est pas lui qui décidera si oui ou non il montera dans le baquet de la deuxième Red Bull avant la fin de la saison. Je crois que tout le monde s'accorde à dire, et à commencer par Helmut Marko, hein, et je pense que Laurent Mekies là aussi l'a conforté, on ne changera rien, on a le temps, on a les cartes en main, on a des pilotes sous contrat. Bah, probablement en fin de saison, en toute logique, avec un changement de réglementation, je ne vais pas dire qu'il va lui être favorable, mais qui remettra tout le monde sur un pied d'égalité. C'est le moment opportun pour monter dans une des équipes de pointe. Et là, on verra véritablement, alors le vrai examen, il a encore des exploits, j'espère, à réaliser d'ici la fin de la saison, mais on verra véritablement, par rapport à Verstappen, dans une équipe de pointe, s'il est du calibre, je vais oser le mot, d'un champion du monde.
Et ouais. pour rebondir juste sur ça, Jean-Luc, je ne sais pas si vous avez vu l'interview de Yuki Tsunoda à la fin de la course, mais il m'a rappelé énormément l'interview de Sergio Pérez au Mexique en 2024. Il était mais hors de lui sur ce que Liam Lawson lui avait fait sur la deuxième chicane, et j'ai senti un Yuki Tsunoda absolument désemparé, qui savait plus quoi faire, qui avait envie que d'une chose, c'est de crier sur tous les toits qu'il en avait marre et que tout l'énervait en fait. Mais c'est assez révélateur aussi, je pense, de la situation dans laquelle Isaac Hadjar, sans le vouloir forcément, hein, met Yuki Tsunoda, parce qu'il se dit là je suis en train de perdre mon siège et à côté de ça je fais pas des bonnes performances, mais en plus de ça j'ai un autre pilote de l'autre écurie, c'est quand même à chaque fois Liam Lawson qui le fait sur les pilotes Red Bull, c'est assez marrant, qui vient au contact, etc., qui vient me titiller. Donc la situation chez Red Bull en interne sur ce week-end, elle doit être très positive au niveau de Max Verstappen, mais par contre je pense que Yuki Tsunoda, il va falloir le calmer sur les prochains Grands Prix, parce que si ça se répète ce genre de manœuvre et de situation,
il va parfaitement raison, sortir de juste ses gonds. Un mot de plus, et là l'équipe l'a pas. On l'a arrêté au 19e tour, le pauvre. Et Verstappen au 38e.
Ah, il a servi.
Alors, je
de
sais bien,
cobaye.
Il était dans un train de DRS, on va me dire, il pouvait rien faire et tout. Mais bon, c'était pas un cadeau à lui faire hein, non plus.
Ouais, c'est clair. Tiens, on écoute Isaac Hadjar avec Canal.
Ah, je me suis bien amusé. C'était. Honnêtement, le rythme était surprenant. On était vraiment très rapide. Et je m'attendais pas à une. Enfin, il n'y avait pas de dégradation des pneus, donc c'était tour qualif après tour qualif. Donc. Ouais, on a choisi la bonne stratégie et on est allé la chercher.
Vous passez Hülkenberg au championnat aussi, vous voilà 9e. Est-ce que c'est des choses qui comptent pour vous ?
Ouais, ça compte. C'est-à-dire qu'il y a 8 pilotes sur Terre qui sont meilleurs que moi.
Il est bon hein, quand même, tu vois. Ça j'ai adoré.
Pas mal.
Ouais, ça j'ai adoré. Terrafin, qu'est-ce qu'on retient d'autre du week-end ? On parlait de Kimi Antonelli. Ça, moi, je pense que c'est un des faits majeurs du week-end, c'est qu'on sent qu'il commence à fatiguer. La digestion, là, l'enchaînement, on a vu de très belles choses en début de saison, mais ça commence à être un petit peu plus dur là pour Antonelli, surtout que George Russell est toujours aussi régulier, j'ai envie de dire. Alors, on ne l'attend pas forcément au niveau de Russell, hein, bien évidemment, parce que ça reste une première année en Formule 1, il est très, très, très jeune. Mais il commence à faire son âge, l'ami Kimi, non ?
On l'avait dit en début de saison, hein, on sait qu'il a beaucoup de potentiel, mais moi je dis souvent que c'est un diamant qu'il faut un peu polir. Il a besoin de. Il est jeune, hein, il a eu que 19 ans. Et c'est vrai que ce week-end, ça a commencé déjà évidemment en essai libre, où cette erreur de crasher sa voiture à Monza un an où il avait été annoncé pilote chez Mercedes.
Il la met dans le rail.
Il la sort aussi. Donc en fait, on s'est rappelé du coup ce moment-là. On s'est rappelé tout ce qui s'est passé. Et puis depuis. Donc c'est vrai que c'est compliqué. Et puis là, il y a cette petite manœuvre aussi en course. Il a une pénalité, hein, Antonelli, si je dis pas de bêtises. Mm-hmm, ouais. Il y a 5 secondes. Donc c'est vrai que c'est vraiment dommage. Il s'accroche tout juste. Hein, 9e place sur ce Grand Prix. Mais on est en train autour de lui de se poser la question finalement, est-ce qu'il était vraiment prêt évidemment pour monter dans une Formule 1, parce qu'on sent que là où d'autres pilotes, et on pourra en parler, mais où là Bortoleto encore une fois fait un très bon week-end et où apprend week-end par week-end, on sent que pour Kimi il y a eu des déclarations, vous avez peut-être pu les lire ou les entendre, mais même de Jacques Villeneuve qui dit qu'il même il aurait régressé en fait finalement depuis quelques Grands Prix. J'irai peut-être pas jusque là, je pense qu'il apprend quand même par un Grand Prix à chaque fois, mais il y a c'était des erreurs là de cracher des voitures comme ça où c'est pas bon pour l'équipe aussi, parce que derrière c'est pas ce qu'il faut, quoi. Faut qu'il fasse les courses les unes après les autres, et donc là, le momentum est depuis plusieurs courses, on en avait déjà parlé, mais ça continue de sentir moyen pour lui. Ouais.
Est-ce que Toto Wolff va se remettre en question ou pas sur son choix?
Je pense pas.
Non.
Je pense que
il a quelques mots qui sont un peu moins dithyrambiques, hein, vous l'avez
oui,
vu.
Oui, c'est vrai. C'est ce que j'allais dire.
Le ton a changé un tout petit peu.
Ouais, mais là,
sens que le temps de l'évaluation est maintenant un peu révolu. Mmh. Que ça y est, maintenant, le temps de l'apprentissage, là maintenant, il est vraiment dans l'évaluation et il se permet quelques critiques. Juste pour vous préciser, Tristan, avant que tu reprennes, il est 8e au championnat. Andrea Kimi Antonelli, il a que 66 points. George Russell en a 194.
Il vient de se faire passer par Alex Albon.
Il y a quasiment 130 points d'écart entre les deux. C'est quand même colossal. Vas-y, Tristan, reprends.
C'était juste. Encore une fois, j'ai du mal à tirer fort sur Andrea Kimi Antonelli parce que moi, j'essaye de toujours garder à l'idée quand je vois ce pilote qu'il était en F4 il y a 3 ans, qu'il n'a pas fait la F3, qu'il a fait une saison de F2 plutôt dure dans des nouvelles monoplaces dans une écurie Préma qui était en difficulté à l'époque, qu'on l'a propulsé en F1, pas dans une petite écurie, chez Mercedes.
À 18 ans. Ouais.
À 18 ans.
Dans le baquet d'Hamilton.
Moi, j'aimerais quand même poser la question à Toto Wolff, si est-ce qu'il arrive à dormir correctement le soir quand il se remémore en tête et qui parfois, parce que là on a quand même eu l'impression que
tu veux qu'on l'appelle parce qu'Arnaud Valadon le fait vraiment très bien.
Je ne sais pas si avec Gwen Lagrue qui a recruté quand il était très jeune Kimi Antonelli, s'ils se demandent s'ils n'ont pas fait quand même une petite erreur en le mettant directement.
C'est ce qu'a dit Wolff en deux mots. Ouais.
Il fallait peut-être réfléchir à deux fois avant de le propulser aussi haut. Et c'est pour ça que moi, quand j'ai vu... j'ai ressenti plus de la tristesse pour Kimi quand je l'ai vu se ressortir une nouvelle fois ce week-end. Parce que c'est comme si vous passez la théorie, vos 20 heures de conduite du permis en Clio. Une fois que vous êtes face à l'examinateur, vous êtes dans une Porsche 911 et qu'ensuite, on vous met dans une Formule 1 pour votre première voiture. C'est pas facile. Hein. Honnêtement, c'est pas facile. Et il est extrêmement jeune et... Je pense que la fin de saison va être compliquée pour lui. Mentalement, il doit commencer à avoir... ça doit être dur pour lui parce qu'il enchaîne les erreurs au final et c'est pas un rythme, c'est pas un cercle très bénéfique que celui d'enchaîner les erreurs et derrière, il n'est pas en confiance. Et j'espère qu'on ne va pas voir un talent disparaître un peu trop tôt justement et un peu mangé par la pression d'une écurie aussi importante. Et pour 2026, je crois qu'il ne sera toujours pas prêt.
Et il n'est pas reconduit officiellement pour le moment, tout comme Russell. Alors, moi, je pense que la responsabilité, une nouvelle fois, encore une fois, je l'apprécie pour plein de raisons, mais il y a certaines choses qui m'irritent un peu, c'est Wolff qui l'a. Parce qu'il ne le sécurise pas non plus. Il en dit le plus grand bien, et puis il le laisse avec cette épée de Damoclès. Pour reprendre sa sortie de piste, il l'a bien digéré, puisqu'en qualif, il est juste derrière Russell, à 43 millième, 6e temps pour Russell, 7e pour Kimi. C'est plutôt en course où il commet des erreurs dans la précipitation, la pression, puis la confusion.
Parce qu'il se sort,
il prend un mauvais départ et après voilà,
sait qu'il avait fait aussi énormément de roulages avant d'arriver en F1 avec Mercedes. Énormément. Mais justement, ces roulages-là, c'est des roulages qui sont privés dans des conditions optimales et donc qui ressemblent plus ou moins à de la qualification.
Ils ont fait tellement de com chez Mercedes pour dire que c'était le nouveau Ayrton Senna aussi que ils sont peut-être. Ça se voit comme le nez sur la figure que c'était peut-être un petit peu trop ce qu'ils ont fait. Et je doute absolument pas que ce pilote a un talent indéniable parce qu'en formule de promotion, il a vraiment eu des résultats exceptionnels. Mais attention à ne pas lui brûler les ailes. Et surtout, moi, ce que je vois de plus en plus, c'est que j'ai l'impression que Toto Wolff est vraiment dégoûté de ne pas avoir pu signer Max Verstappen parce qu'il a redit encore une fois « Ah oui, là, la performance de Max Verstappen, franchement, quel pilote !» Alors là, il rentre un peu plus dans l'histoire, etc.
Max, il a fait un super Grand Prix et je pense qu'il a trouvé performance.
Pas mal.
C'est bien.
On a la suite de Arnaud.
C'est fort, deux imitateurs, j'adore.
Mais je pense que au final, il va peut-être s'en mordre les doigts un petit peu, Toto Wolff, de ne pas avoir pu signer Max Verstappen ou d'avoir
mis... Ah bon, tu crois?
Ouais. Là,
il ne pouvait pas faire plus. Je crois qu'il le fait la danse du ventre également.
Trois petits points pour Kimi Antonelli. Il a depuis 6 grands prix quand même.
C'est exactement la stat que j'avais donnée.
Ça commence à se voir.
Les gars, un petit mot de Bortoleto là rapidement qui maximise à chaque fois qu'il a une opportunité de faire un truc. Franchement, il est très bon, Gabriel Bortoleto, Serafin.
Mais oui, c'est génial Bortoleto. Déjà, faire la Q3 avec la Sauber. Il y avait aussi Nico Hülkenberg hein, avant son abandon, juste avant le début de la course. Mais il était là aussi. Donc les deux, hein, même Bortoleto, là, ça fait quelques courses qu'on sent presque meilleur que Hülkenberg finalement. Ouais. Et il ramène 4 points Bortoleto. Bah, c'est simple, sur les 6 derniers Grands Prix, il est 4 fois dans les points. On sait que la Sauber aussi, il y a du mieux. Mais lui, franchement, course après course, on en parlait déjà il y a 2-3 Grands Prix là, quand on faisait le bilan de mi-saison, on l'avait classé très très proche aussi de avec Adjar dans ses rookies. Et là franchement il est dans une très bonne dynamique, encore une fois il apprend Grand Prix par Grand Prix, on l'a déjà dit, vainqueur de F2 et de F3 d'affilée donc sur les deux précédentes années, donc on sait que c'est un talent. Et lui au contraire il y va Grand Prix après Grand Prix, et dans une voiture qui semble aussi mieux équilibrée peut-être aussi et qui a un meilleur rythme en course. Franchement, Bortoleto, on continue de voir dans ce pilote beaucoup de potentiel également. Donc non, cette huitième place, elle est très belle pour lui.
Lui, depuis l'Autriche, c'est simple. Donc depuis 6 courses, il est rentré 4 fois dans les points.
Ouais. Il mettait tellement la pression à son patron qui était devant lui qu'il a cassé sa suspension, Fernando Alonso. Oh là tellement là. Il était sous pression.
L'image.
Oui, c'est vrai.
Là, c'est quand même dur hein, de construire une voiture et d'avoir une suspension qui casse sur un vibreur. Surtout que les vibreurs de Monza, c'est pas comme les vibreurs où on a souvent au Qatar où c'est vraiment agressif. Il y a beaucoup de vibreurs à Monza, mais ils sont au final pas tant violents que ça. Et là, la chance de faire Fernando Alonso a encore frappé.
Incroyable. Ouais. Alors juste un mot, si vous voulez bien, sur Bortoleto, mais pour parler d'un autre pilote français dont on parle malheureusement jamais, Théo Pourchaire, vous me voyez venir, qui était champion de Formule 2 avant lui et qui n'a pas eu sa chance. Et voilà. Et ça, c'est dramatique. J'y reviens. Moi, je le défends ardemment parce que je pense que si on lui avait donné l'opportunité qu'on a donnée à d'autres, tant mieux pour les autres. Mais lui, il n'était pas dans la bonne filière. Il n'était pas là au bon moment. Il était pas. Je ne sais pas à quoi répondre. Et lui non plus, d'ailleurs, le pauvre. Hein. Mais qu'aurait-il fait, Théo Pourchaire ? Que ferait-il aujourd'hui ?
Exactement. Ouais, on l'a vu d'ailleurs hier chez dans le stand Peugeot.
Là, il roule en endurance cette saison. Ouais, ouais. Il a galéré pendant très longtemps pour retrouver un volant, Théo Pourchaire. Ouais. Mais c'est clair que... d'ailleurs, on avait fait un paddock avec lui l'an dernier, que vous pouvez réécouter. Mmh. Très sympa, où il nous raconte un petit peu son histoire, ce moment où il attend un coup de fil pour un baquet en Formule 1, que ça ne vient pas. Ouais. Et donc, voilà. Vous pouvez retrouver le podcast. Bon, voilà, les gars, on a fait le tour. Est-ce qu'on se fait un débrief du week-end d'Alpine? Voilà.
Signature de Pierre Gasly quand même.
Ouais, quand même
signature de Pierre Gasly. Ouais,
prolongation surtout, Pierre Gasly.
Non mais et surtout confirmation du board Alpine que on ne veut pas vendre l'écurie. Alors ce sont des belles paroles, on est d'accord, mais confirmation qu'on ne veut pas vendre Alpine.
Oui.
Et que on semble impliqué dans le projet F1, et surtout quand on signe Pierre Gasly pour jusque 2028, ce n'est qu'un bout de papier qui peut être déchiré à tout moment, mais ça montre aussi qu'on veut quand même être impliqué sur plusieurs années. Donc ça c'est un peu rassurant quand même.
Aussi qui a changé un petit peu sa manière de s'exprimer depuis quelques grands prix où il dit qu'on a besoin de Pierre, qu'on est d'accord que la voiture elle est pas là.
Tu m'étonnes.
Oui, alors qu'il avait un peu mis en doute ses capacités à un moment.
Il disait c'est pas lui, bien sûr. Lui
il dit une chose et son contraire dans la même phrase. De toute façon, on le connaît depuis longtemps. Non mais je me demandais moi si c'était pour être provocateur. Hein. Je sais que ça déplaît à certains, mais ça m'est complètement égal. Bonne nouvelle ou pas bonne nouvelle qui prolonge chez Alpine.
En fait il a pas le choix.
Avait-il d'autres possibilités?
Oui, mais alors, c'est une bonne nouvelle qui prolonge, mais qui prolonge jusque 2028, c'est plus ça qui m'a étonné. Parce que ça veut dire soit qu'il a joué la sécurité avec un contrat long terme, entre guillemets, pour avoir une place en F1 jusqu'en 2028, soit qu'on lui a présenté des choses vraiment très intéressantes. Bon, après, on sait qu'aussi Alpine, ce sera au final l'écurie qui aura le plus travaillé sur 2026, parce qu'ils ont arrêté, de travailler sur la voiture de 2025 depuis... Depuis trois ans, ils ont arrêté de travailler sur. Donc c'est sûr que peut-être qu'il y a ça qui joue, mais à voir en tout cas. Mais quelle tristesse de voir Pierre Gasly.
On va dire que c'est une bonne nouvelle, on va rester optimiste.
Il n'y a quand même pas beaucoup de paquets en F1, donc je pense qu'il n'y a pas.
Non, mais avoir un pilote français.
Et Colapinto, on n'a pas de nouvelles, alors ils n'ont pas re-signé.
Mais il a roulé ce week-end, Colapinto ? Je ne l'ai pas vu.
Ah, attends. Et alors là, il faut lui rendre hommage. Et sincèrement, il a roulé en qualif, il est devant Pierre.
Il est devant Pierre, oui.
C'est incroyable. Et en course, il est un moment devant Pierre, hein, sérieusement.
Après, Pierre savait qu'il partait des stands, je crois.
Oui.
C'est aussi peut-être qu'en qualif, il n'a pas fait la qualif à fond. C'est vrai, il faut rendre hommage il faut rendre hommage à sa performance sur ce week-end.
Il faut être honnête. Essayez en tout cas.
Oui, c'est vrai. Bon les gars, merci beaucoup. On se retrouve dans 15 jours. Grand Prix d'Azerbaïdjan à Bakou. Ça y est, plus de Formule 1 en Europe. Moi, je suis toujours nostalgique là, à chaque fois.
Sauber a dit au revoir à son motorhome qui datait de l'époque BMW. 2003,
c'est vrai,
Le motorhome avait 20 ans, je crois, quelque chose comme ça.
Les motorhomes qu'on a justement en Europe, qui sont fixés. Ouais. Bah,
oui. Qui c'est qu'il récupère derrière ce motorhome? Ça sera intéressant de savoir après.
Petite vente aux enchères
pour faire pour faire
le paddock. On va tourner le paddock dans le
motorhome. Non mais moi pour moi, tu sais, pour tes vacances d'été Tristan là en camping là.
Ah bah tu gardes un moto. Allez ça part.
Pas mal hein. Je pense qu'il faut sortir un bifton quand même.
Pour la braderie à Lille, on va proposer.
Merci pour tout. Je vous dis à dans 15 jours les gars pour le warm-up du Grand Prix d'Azerbaïdjan. D'ici là, n'hésitez pas à vous abonner, à partager le podcast et à venir réagir avec nous sur les réseaux. Vous l'avez fait pas mal là sur l'analyse qu'on a fait sur Lewis Hamilton, ça a bien cartonné sur la page Instagram RMC Formule 1. Continuez, franchement, c'est un plaisir de vous lire à chaque fois. Bye bye.
Salut.
Le paddock RMC.